La semaine dernière, nous avons lu les 7 premiers versets du chapitre 3 de la Genèse, ce premier livre de la Bible, le livre des commencements. Et nous avons vu comment le péché est entré dans le cœur de l'être humain. Comment Adam et Ève ont été pris dans l'engrenage de la tentation, se laissant séduire par les mensonges du diable. Diable qui leur a fait croire que ce que Dieu avait dit était faux. Diable qui leur a fait douter de la parole de Dieu et de sa bonté et qui leur a promis des monts et merveilles s'ils désobéissaient à la loi divine. Loi divine, rappelons-le, qui a été donnée pour le bien de l'être humain par Dieu, ce Dieu qui avait tout créé, ordonné et structuré pour le bien-être de sa créature. Or, Adam et Ève ont entraîné dans leur désobéissance toute la race humaine. Et nous constatons qu'aujourd'hui, les mécanismes de rupture avec Dieu sont toujours les mêmes. Ça n'a pas changé. Les tentations aujourd'hui sont les mêmes qu'elles étaient dans le jardin d'Éden. Nous nous trouvons chaque jour en train de répéter les péchés d'Adam et Ève. Nous méditons sur ce qui nous est interdit d'avoir. Nous mettons en doute la véracité de la parole de Dieu. Nous commençons à nous méfier de la bonté de Dieu à notre égard. Nous nous faisons du souci à propos de choses qui n'ont pas d'importance. Et souvent, nous agissons avec et dans l'incrédulité. Or, ce chapitre 3, nous l'avons dit, est essentiel si nous voulons comprendre pourquoi le monde est-ce qu'il est aujourd'hui, si nous voulons comprendre pourquoi l'être humain est capable du meilleur et du pire, et comme le disait quelqu'un, souvent c'est dans le pire qu'il est le meilleur, il est essentiel à la compréhension du message de l'Évangile tel que nous l'avons dans la Bible. Il est essentiel si nous voulons comprendre pourquoi il est urgent que l'homme ait un sauveur, qu'il soit sauvé, qui soit retiré de ce trou où il s'est mis. Et ce matin, je vous propose de lire le reste du chapitre 3 pour voir les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève, les conséquences de leur péché. Nous allons voir qu'effectivement, ce que Dieu avait dit s'accomplit comme il l'a dit. La mort va faire son entrée dans le monde, elle va s'abattre sur l'être humain, et elle va prendre plusieurs formes. Alors, à partir du verset 7 jusqu'au verset 24, nous lisons « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors, ils entendirent le Seigneur qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. » Le Seigneur Dieu appelle l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Dieu reprit « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. À la femme, Dieu dit, je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari et lui, il te dominera. À l'homme, Dieu dit, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, vivante, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, « L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre toujours. » Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins et l'épée flamboyante qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ce passage nous dit donc quelle a été la réaction de Dieu au péché d'Adam et Ève. On voit que Dieu vient vers eux, les cherche et les interroge avant de prononcer son jugement sur eux et de les condamner. Et la première chose qui attire mon attention dans ce dialogue, c'est la réaction d'Adam et Ève. Immédiatement après leur péché, ils ont pris conscience d'avoir transgressé la loi divine, car ils éprouvent le besoin de se cacher. Au verset 7 et 8, nous lisons « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. » On constate que quelque chose de profond a eu lieu à ce moment-là. À cause du péché, la relation qu'ils avaient avec Dieu a été brisée, elle a été cassée, elle a été bouleversée. Ils se sont rendus compte finalement de leur fragilité, de leur dépendance du Créateur contre qui ils viennent de se révolter. Et leur désobéissance les expose non seulement à la honte, mais aussi à la peur. Car au verset 10, Adam dira à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » Dès cet instant, l'homme et la femme se mettent à fuir Dieu. Ils se mettent à fuir Dieu. Ils entendent la voix de Dieu, mais au lieu de l'accueillir, comme ils l'ont fait sans doute à plusieurs reprises, par honte et par peur, ils ne pensent qu'à s'en éloigner, à se cacher de Dieu. Combien ce constat est vrai aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? Notre péché nous expose à la honte et à la peur. Les paroles de Dieu nous font fuir les uns et les autres, et même ceux qui ont déjà accepté Christ comme sauveur. Nous avons souvent tendance à nous cacher, à ne pas tenir compte de la parole, de ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons tendance à fuir la parole de Dieu. On invente des multiples stratagèmes pour éviter de faire face à la parole de Dieu. Devant Dieu, l'homme se sait en faute. Il se sait une créature vulnérable et dépendante de son Créateur. Et il a peur des souveraines paroles de Dieu, et donc il préfère se cacher, alors qu'on le sait bien, il est impossible de se cacher du Dieu omniscient, du Dieu omniprésent. L'homme préfère se cacher, mais il doit le savoir, c'est impossible de cacher celui qui a tout créé, celui qui voit tout, celui qui connaît tout, rien ne lui échappe. Ce Dieu, il est omniprésent, il voit tout. La deuxième chose qui attire mon attention dans ce texte, c'est que malgré la désobéissance de l'homme, Dieu va vers lui. Dieu va vers Adam et Ève pour leur parler. Le verset 9 dit que le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Dieu sait ce que l'homme fait. Dieu sait où l'homme se trouve, où il se cache. Mais dans sa grâce, il va vers lui. Il le poursuit, il veut parler avec lui. Il ne veut pas le condamner sans l'entendre, sans entendre ce qu'il a à dire pour sa défense. Il doit rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait. Il doit rendre compte à Dieu de sa désobéissance. Dieu veut que lui et sa femme reconnaissent de manière honnête leur faute. Dieu, dans sa grâce, veut les conduire à une prise de conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait, de leur désobéissance. Dieu veut qu'ils se repentent de leur péché. Dieu s'adresse d'abord à Adam, car c'est lui que Dieu a mis comme chef de la famille. C'est à lui que Dieu a confié sa parole, son commandement. Il est donc le premier responsable devant sa femme, devant son foyer. Et Dieu lui pose la question, « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme va-t-il reconnaître ? Va-t-il reconnaître son péché ? Va-t-il avouer sa faute ouvertement au Seigneur et lui demander pardon ? Hélas, non. Il répond, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Ensuite, le Seigneur s'adresse à la femme et lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme va-t-elle reconnaître sa faute, l'avouer et demander pardon au Seigneur ? Hélas, elle non plus. Elle ne reconnaît pas et répond, « C'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. » On voit bien qu'Adam et Ève sont sur la défensive. Ils s'auto-justifient. Ils trouvent des excuses. Adam blâme sa femme, il n'y a donc plus aucune solidarité dans son couple. Pire encore, il accuse même Dieu, n'est-ce pas, de lui avoir donné la femme qui lui a proposé de manger du fruit défendu. Il ne se croit pas coupable, mais victime. Et Ève fait exactement la même chose. Elle blâme le serpent. Il n'y a pas de leur part une prise de conscience de la gravité de leur acte. Il n'y a pas de repentance. Ils rejettent la faute sur quelqu'un d'autre, sur un tiers. La stratégie de la victime. La stratégie de la victime est une stratégie qui nous est trop familière à nous aussi depuis ce jour-là où Adam et Ève ont péché. Le transfert de culpabilité est le plus vieux système de protection que l'homme ait inventé, n'est-ce pas ? On pourrait donner quelques exemples. L'élève qui n'a pas bien préparé ses examens échoue. Et qu'est-ce qu'il va dire pour expliquer le fait d'avoir échoué ? Il va dire que son esprit n'a pas bien fonctionné ce jour-là, ou alors que le prof n'a pas bien formulé les questions, etc., etc. Toutes sortes d'excuses pour se justifier. Dans la fable d'Ésope, le renard qui n'a pas réussi à attraper les raisins, bien qu'il ait sauté le plus haut possible, n'est-ce pas, se console en disant « de toute façon, les raisins ne sont pas mûrs ». Dans une publicité contre les méfaits de l'alcool, on y voit un homme dans un bar en train de boire et de boire. Une voix l'interpelle « Monsieur, pourquoi buvez-vous ?» « Parce que ma femme m'a quitté, » répond-il. Sous-entendu, c'est la faute de ma femme si je bois. Et la femme continue, « Et pourquoi vous a-t-elle quitté ?» Et là, la vérité est rétablie. « Elle m'a quitté parce que je bois. » Nous avons toujours tendance à trouver des excuses en accusant les autres ou alors en rendant les circonstances responsables de nos fautes. Alors que nous savons bien que Dieu connaît la vérité, car il voit toutes choses. Et Dieu, il nous tient responsables de nos actes. La Bible nous encourage à faire le contraire de ce qu'Adam et Ève ont fait. Elle nous encourage à avouer nos fautes et à ne pas les cacher. Elle nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte à nous repentir du mal que nous faisons et à le confesser au Seigneur qui est prêt à nous pardonner au lieu de jouer au cache-cache avec Dieu. Adam et Ève ont peur de Dieu. Ils ont honte devant lui. Leur relation avec Dieu est brisée. Elle est imprégnée de la mort spirituelle. Celui qui leur a donné la vie est devenu une source de peur pour eux. Voilà l'une des conséquences, l'une des premières conséquences du péché. Le troisième point que j'aimerais relever dans ce passage, c'est qu'après avoir entendu l'homme et la femme, Dieu prononce son jugement. Dieu, le Créateur, devient le juge de l'être humain. Il prononce son jugement sur Adam et Ève et sur le serpent, le diable, le tentateur. Le Dieu saint ne pouvait pas laisser impuni la désobéissance de l'homme. Vous savez, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et comme tout bon père de famille qui aime ses enfants, il fallait que le Seigneur punisse la désobéissance d'Adam et Ève, qu'il punisse Adam et Ève d'avoir fait le contraire de ce qu'il avait demandé. Alors nous pouvons penser à un juge. Dans la société, si quelqu'un désobéit à la loi, on le conduit devant le juge. Si le juge arrive à la conclusion que cette personne est coupable de désobéissance, son devoir c'est de la punir, de punir cette personne. Il va ainsi dissuader cette personne de recommencer à désobéir à la loi et il va aussi, par ce jugement, on l'espère, dissuader les autres de désobéir. Imaginons un instant que le juge ne prononce pas de jugement, qu'il n'y ait pas de punition, ce serait le chaos dans la société. Ce serait déjà avec les jugements qu'on a, c'est souvent le chaos, n'est-ce pas? Ce serait encore terrible s'il n'y avait plus de jugement. Dieu, le Créateur, a fait ses lois et il les a faites pour que tout le monde y obéisse. Et nous l'avons dit la dernière fois, c'était pour le bien de l'être humain qu'il a donné cette loi à Adam et Ève. Lorsqu'il a donné cette loi de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas pour embêter Adam et Ève, c'était pour qu'ils vivent en communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. Il leur avait dit que s'ils mangeaient de son fruit, ils mourraient certainement. C'était clair. Or, Adam et Ève ont désobéi. Et on peut dire qu'ils ont désobéi finalement en connaissance de cause, puisque Dieu leur avait dit quelles seraient les conséquences. Il fallait donc que Dieu les juge et qu'ils soient punis pour leur faute. S'il ne le faisait pas, cela voulait dire que sa loi finalement était inutile, que sa parole ne valait rien. Dieu doit donc punir l'homme. Il y va de la fidélité et de la fiabilité de sa parole. Il y va aussi de sa sainteté, puisque la Bible dit que Dieu est saint, de sa justice et de sa pureté. Le Dieu saint ne peut pas tolérer le mal. Et donc Dieu va juger Adam et Ève pour leur péché. Adam et Ève vont découvrir de manière douloureuse que Dieu, parce qu'il est saint, doit punir les pécheurs. Et Dieu commence d'abord par maudire le serpent. Au verset 14 et 15, le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. » Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Le serpent, nous l'avons vu la dernière fois, est le diable, le tentateur, l'adversaire, l'ennemi de Dieu. Satan avait pris donc un corps de serpent pour séduire Adam et Ève. Et la Bible nous dit qu'il est le grand ennemi de Dieu. Il veut détruire l'œuvre de Dieu. Il veut séparer l'homme, l'humanité tout entière du Créateur. C'est la raison pour laquelle il est venu tromper Adam et Ève, là, dans le jardin d'Éden. Or, ici, Dieu est très clair. Sans jugement et sans appel, il maudit le serpent. Il maudit le serpent, le diable. Avec Dieu, le mal n'a pas le dernier mot. Ensuite, Dieu punit la femme. Il ne maudit pas la femme. Il la punit. Le Dieu de justice est aussi le Dieu de grâce et d'amour. La femme est touchée dans ce qui est au cœur de sa féminité. Tout l'aspect familial et relationnel est touché, je dirais, de plein fouet. Au verset 16, nous lisons « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Dans cette punition, on voit qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans le sens où ce n'est pas la fin. Dieu va permettre à l'être humain de se multiplier, mais cela va se faire dans la souffrance. Ce petit verset, vous savez, a fait couler beaucoup d'encre. Et ce matin, nous n'avons pas le temps de voir les différentes interprétations qui ont été données à ces paroles. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que le mariage a été touché là où le bas blesse. Et pour que tous les mariages réussissent, il faudra un effort continuel, n'est-ce pas, une vigilance accrue de chaque jour, de chaque instant, de respect, d'amour, de compréhension mutuelle, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas toujours facile, vu la nature, notre nature pécheresse, égoïste. Ensuite, Dieu prononce sa sentence sur l'homme, au verset 17. « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme est touché dans son rapport au travail. Le travail qui fait partie de la bonne création. C'était Dieu a confié une tâche à l'homme dans le jardin d'Éden pour son épanouissement. Ici, on voit que le travail est soumis aussi à la frustration. Le travail devient pénible, devient dur, car il a été touché par le péché de l'homme. Et en même temps, on voit que la création aussi, toute la création est affectée par le péché de l'être humain. L'homme est expulsé du jardin d'Éden, il est expulsé de la présence de Dieu. Il ne mérite plus de vivre en communion avec Dieu, il ne mérite plus de vivre auprès de Dieu. Dieu empêche son accès à l'arbre de la vie. Et l'homme est condamné donc à mourir, car Dieu dit « car tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Voilà ce qui arrive lorsque l'homme défie Dieu, lorsque l'homme rejette celui qui lui a donné la vie. Lorsque l'homme fait cela, il mérite la mort. Et la mort est dorénavant une sombre réalité pour toute l'humanité, pour toute la descendance d'Adam et Ève. Elle est la conséquence du péché. Ce que Dieu avait dit s'accomplit. Le diable, lui, il avait menti. Cette mort, c'est la mort physique, bien sûr. Tu es poussière et tu retournes là à poussière. Mais c'est aussi et surtout la mort spirituelle. Car la Bible nous dit que loin de Dieu, on est mort. Loin de Dieu, on est mort. En rupture avec l'auteur de la vie, nous ne vivons pas. Nous végétons, nous vivotons et nous nous éteignons. Dieu l'avait bien dit, tu mourras certainement. Nous lisons dans le Nouveau Testament que le salaire du péché, c'est la mort. C'est très clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Heureusement qu'il y a la phrase suivante qui dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Heureusement que dans ce jugement divin, Dieu manifeste aussi sa grâce. Ce qui montre que Dieu n'est pas un juge froid, un juge sans aucune empathie vis-à-vis de l'être humain. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, nous dit la Bible. Et la mort l'indigne profondément. La mort le bouleverse au plus profond de lui-même. La mort détruit sa création, sa créature. La mort est contraire à sa volonté. C'est pour cela qu'au verset 15, il annonce une bonne nouvelle. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce sont des paroles énigmatiques, mais qui annoncent le salut en Jésus-Christ. Oui, dès le départ, le salut est annoncé. Le jour viendrait où la tête du serpent, du malin, du diable serait écrasée par quelqu'un de la descendance de la femme, quelqu'un qui viendrait mettre fin aux actions néfastes du diable. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Voilà donc une bonne nouvelle qui est annoncée de manière à peine voilée. Dieu annonce ici la venue d'un sauveur. Voilà la grâce de Dieu. Dieu est un juge finalement plein de grâce, de miséricorde et d'amour. Il reste fidèle à sa parole et en même temps, il montre sa grâce vis-à-vis de l'humanité. Ça vaut la peine de conclure avec quelques versets de la lettre aux Romains, au chapitre 5, où l'apôtre Paul dit ceci, Romains chapitre 5, à partir du verset 15. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de sa grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ. Pardon, je vais reprendre la lecture. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jésus-Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà, j'ai lu quelques versets à la fin du chapitre 5 et deux versets au chapitre 6, versets 10 et 11, parce que ces versets résument et expliquent donc ce premier message prophétique de la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 15, la venue d'un sauveur. Le plan de Dieu pour le salut du monde, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alors je dirais pour terminer, s'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son sauveur, qu'il ne sorte pas d'ici sans le faire. Parce que l'amour de Dieu et sa grâce, son plan pour le salut, pour notre salut, passe par Jésus-Christ, son Fils. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés parce que nous sommes pécheurs par nature, mais aussi parce que nous péchons comme Adam et Ève l'ont fait. Repentons-nous et croyons à la bonne nouvelle. Acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur parce qu'il est venu parmi nous dans ce monde chercher et sauver l'homme perdu. C'est lui qui a payé le prix de nos péchés à la croix. Et je profite pour dire que bientôt nous allons commencer une classe de préparation au baptême. Et s'il y a des personnes ici qui veulent se joindre à cette classe de préparation au baptême pour apprendre les fondements de la foi chrétienne, vous pouvez parler avec Eric et moi-même et nous allons donc bientôt débuter cette classe. Alors que le Seigneur puisse nous bénir, Que nous puissions vraiment chacun de nous comprendre non seulement que Dieu est un Dieu qui juge, un Dieu de justice, comme Luc nous l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi un Dieu d'amour qui fait tout pour le salut de l'homme perdu. Que le Seigneur bénisse sa parole.